sera la réaction du Maroc si jamais le vote demande l'indépendance? Ce que, bien sûr, espèrent tous les ressortissants du Sahara, de la République sahraouie. Et bien normalement, dit Fatma Hassidi, cela devrait bien se passer, car ils sont conscients d'avoir conclu cet accord avec l'ONU. Ils doivent prendre le risque et assumer le résultat. Et si le peuple sahraoui refusait l'indépendance, quelle serait la réaction du Front Polisario? Ah, si tout va bien, s'il n'y a pas de fraude, je ne vois pas comment il pourrait y avoir une réponse négative, dit Fatma Hassidi. Mais en imaginant cette possibilité, le Front Polisario respectera la décision du peuple sahraoui. Certains des responsables sahraouis et certains chouks ont accusé le Front Polisario d'enregistrer des personnes qui ne devraient pas avoir le droit de vote. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'avez-vous à répondre là-dessus? Fatma dit qu'il existe deux sortes de chouks, ceux qui habitent dans les campements en Algérie, les campements réfugiés, et ceux qui vivent sur le territoire occupé par le Maroc. Ces derniers subissent de fortes pressions. Le Maroc arrive à leur faire dire ce qu'il veut. Mais est-ce qu'il existe pourtant une unité entre les Sahraouis vivant dans des camps de réfugiés et ceux qui habitent sur les territoires occupés par le Maroc? Oui, bien sûr, dit Fatma Hassidi, c'est le même peuple. Il y a l'enfant d'un côté et le père de l'autre, c'est la même famille. Les personnes qui vivent dans les campements sont dans des situations très dures, mais il faut aussi rappeler que les personnes habitant le territoire occupé subissent de fortes pressions psychologiques, enlèvements, emprisonnements, etc. Alors pour terminer, j'aimerais dire qu'on espère vraiment pouvoir célébrer le 23e anniversaire de la République sahraoui sur notre territoire. Et ce serait le 27 février 1998. Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8 et nous partons pour l'Asie, mais l'Asie bien aujourd'hui. Les Philippines modernes, les Philippines d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le nom de la chanteuse, je n'arrive pas à lire ce qui est écrit, c'est une cassette directement en provenance de là-bas. Ce n'est pas aux Philippines que j'ai envie de vous emmener, mais en Chine occidentale, dans le peuple Na, où règne la liberté sexuelle, c'est la règle, la famille n'existe pas, du père on ignore même le nom, et les enfants sont élevés par les mères et les oncles maternels. Une société peut-elle fonctionner sans père ni mari ? Je crois qu'il y a déjà beaucoup de femmes qui se sont posé la question, beaucoup de mouvements de femmes. Aujourd'hui, peut-être a-t-on dépassé cela et on a envie de dire évidemment non. Et c'est en tout cas toujours ce qu'ont répondu les anthropologues, car ça se saurait. Or, un chercheur chinois associé au laboratoire d'anthropologie sociale, Collège de France, CNRS, etc., vient détruire ce dogme inébranlable. Il existe au moins un groupe humain composé d'hommes et de femmes rigoureusement célibataires qui délaissent donc la famille. Et la publication d'un livre qui s'appelle « Une société sans père ni mari », les Na de Chine, fait maintenant sortir cette découverte majeure du cercle des spécialistes. Le fait que les Na n'aient même pas de nom ni de notion pour définir le père dans leur langage ou le mari ne veut pas dire qu'ils ne fassent pas d'enfants pour autant. C'est même la manière originale de reproduction de leur société qui fait l'intérêt de cette petite ethnie d'agriculteurs établie sur les hauts plateaux himalayens dans la Chine occidentale. Bouddhistes, animistes, les Na, environ 30 000, vivent en villages épars dans la conque montagneuse de Yongning, qui se trouve à cheval entre le Yunnan et le Sichuan. Et dans la société Na, un enfant fait partie automatiquement de la lignée de sa mère. Les sœurs et les frères travaillent, consomment et résident ensemble toute leur vie. N'est-on composé que de consanguins, le groupe des parents est strictement matrilinéaire. D'une certaine manière, dans cette matrilignée, les frères occupent la place des maris, au sens où ils coopèrent à son existence économique et à l'éducation des enfants. Les géniteurs des enfants, d'habitude inconnus, n'ont ni droit ni devoir envers leur progéniture et ne sont considérés en aucun cas comme des parents. Les frères sont en revanche entièrement responsables des enfants de leurs sœurs avec lesquels ils vivent toute leur vie. L'interdit de l'inceste étant strictement observé, il a fallu inventer des modalités originales d'échange sexuel. Alors qu'en est-il ? Eh bien, les relations sexuelles entre Na sont fondées sur la plus grande liberté entre partenaires. Cai Hua recense quatre modalités de pratiques sexuelles. Alors, les plus courantes, de formes de visite des hommes aux femmes, chez ces dernières donc. Beaucoup moins répandue, la cohabitation entre une femme et un homme, chez l'une ou chez l'autre. Et enfin, extrêmement rare, un lien comparable à notre mariage qui fait résider la femme dans la maisonnée de l'homme. Alors, la forme la plus habituelle, c'est-à-dire la visite furtive, se déroule la nuit à l'insu des consanguins, donc des frères et des sœurs, notamment de tous les adultes masculins. très libres sexuellement. Les nains sont en revanche très pudiques. Toute évocation sexuelle est en effet interdite parmi les membres d'une même lignée. Appelée Asia, la visite furtive en question entre deux partenaires peut durer une ou plusieurs nuits, des semaines ou des mois, parfois des années, mais sa caractéristique principale est qu'elle n'est pas systématique, ni a fortiori exclusive. Si les femmes ne sont pas autorisées à faire des visites aux hommes, elles sont en revanche totalement libres d'accepter ou de refuser leur partenaire et d'interrompre à tout moment le rapport de l'Asia, c'est-à-dire la visite furtive. Aussi, les hommes et les femmes entretiennent-ils plusieurs relations de visite furtive à la fois, ce qui, il faut en convenir, rend problématique la reconnaissance des géniteurs des enfants. Alors la question ne se pose même pas. Pour l'ENA, le fœtus se trouve déjà dans le ventre maternel. Aux hommes ne revient que le rôle d'arroseur, et plus on arrose, plus on augmente les possibilités de faire sortir l'enfant. La modalité de la visite ostensible, donc la deuxième solution, où le partenaire est connu par la lignée d'accueil, ne met pas fin aux visites furtives, loin de là, à charge pour les partenaires de ne pas se faire découvrir. En effet, dans cet univers de relations sexuelles volatiles, si on peut utiliser ce mot, tout est occasion de rupture sur le champ. La visite ouverte devrait en principe garantir l'exclusivité sexuelle entre partenaires, mais on comprend aisément que cela n'est que très théorique, car selon l'ENA, le serment de fidélité est honteux, non conforme à la coutume et perçu comme un négoce immoral. J'ai bien dit la fidélité. La cohabitation, la troisième modalité de pratique sexuelle, est admise dans le cas de manque de membres de l'un ou de l'autre sexe dans une lignée, le plus souvent dans le cas de manque de femmes. À la génération suivante, une fois la descendance assurée, on revient à l'usage normal des visites furtives. Les couches aristocratiques, notamment la famille du chef traditionnel d'Ena, pratiquent le mariage avec obligation pour la femme de demeurer chez le mari. Mais cette coutume a été imposée par le pouvoir central chinois à partir du XIIIe siècle de notre ère. Et la transmission du pouvoir se faisant de père en fils, comme partout ailleurs en Chine, il fallait bien connaître avec certitude le géniteur de l'héritier. D'où le mariage et l'organisation patrilinéaire de la parenté, mais je le rappelle seulement dans le cas des couches aristocratiques. Depuis l'instauration du régime communiste en Chine, les mœurs si peu conformes de l'ethnie des nains sont donc en sursis parce que ça ressemble à tellement rien d'autre qui se passe en Chine. Certes, les quelques aristocrates, suite à l'abolition de leurs privilèges, en sont venus tout simplement à pratiquer eux-mêmes la visite furtive comme tout le monde. Plus fondamentalement, surtout à l'époque de la révolution culturelle, il y a de ça une trentaine d'années, les nains ont subi plusieurs campagnes de rééducation. On leur a réexpliqué les bienfaits du mariage, l'utilité du mari, les vertus de la fidélité conjugale et le rôle du père. On a fait marier tout ce qui était mariable, mais l'orage passé, les couples se sont défaits, on est revenu aux anciennes coutumes. Et cependant, ce que n'a pas pu faire la répression pourrait bien être réalisé par la sinisation très sournoise à l'école. Il reste que l'ENA continue à ne rien comprendre à l'amour conjugal qu'on les pousse à éprouver. Comment peut-on aimer quelqu'un qui n'est ni frère ni sœur, qui n'est pas de ta lignée, sous le motif qu'il serait le géniteur bien improbable d'enfants qui n'ont pas besoin de lui pour naître ni pour être élevés. La Chine d'aujourd'hui est censée s'ouvrir au monde et pourtant Une journaliste, Catherine Monfajon, y a rencontré, rarissime, mais existant encore, des femmes aux pieds bandés, témoins de cette autre Chine, la Chine impériale d'il y a si longtemps. Et une vie, on le sait bien, passée entre coquetterie et supplice, puisqu'il fallait avoir un pied de la taille d'une fleur de lotus. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de voir une chaussure de femme chinoise avec les pieds bandés, mais c'est de l'ordre de 12 à 13 cm. Et c'est ce que voulaient obtenir les coquettes chinoises dès le Xe siècle. Cela devint un critère de beauté même dans le peuple et un symbole sexuel qui rendait les hommes fous, paraît-il. Mais on sait bien que cet attrait avait tout son lot d'horreur et de supplice. Xiu, elle, a 90 ans aujourd'hui. Ses pieds ont-ils été bandés ? Oui, répond-elle, c'était pour me trouver un mari, ce qu'elle a fait. Elle est maintenant arrière-grand-mère. Et elle a peur que ses petits-enfants ne la fassent tomber quand ils la bousculent. Question d'équilibre. Imaginez qu'elle a des pieds qui font à peu près les 12 cm dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, parler de ses pieds bandés à une Chinoise, c'est un peu comme demander des nouvelles de son clitoris à une Française. C'est ainsi que, non sans humour, la sinologue Marie Holtzmann nous avait éclairé sur la difficulté de l'entreprise qui consistait à rencontrer en Chine aujourd'hui les dernières femmes qui ont les pieds bandés et recueillir leurs témoignages sur cette coutume qui a mis au supplice des millions de femmes pendant plus de 1000 ans. Alors, qui a envie d'entreprendre cette aventure ? Je vous le disais, c'est Catherine Monfajon. Marie Holtzmann, donc la sinologue dont nous venons de parler, était au moins convaincue qu'il serait possible de retrouver ces Chinoises, même si la pratique des pieds bandés a été officiellement interdite en 1911, sachant que l'on bandait les pieds des enfants entre l'âge de 2 et 8 ans, des femmes de 90 ans aujourd'hui devaient avoir vécu cette épreuve. Compte tenu de l'immensité du pays, il était probable que l'interdiction n'avait pas été respectée du jour au lendemain, et de toute façon, c'était à tenter avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Alors, imaginez-vous, Pékin, en hiver, le froid est incisif, le vent glacé, il fait près de moins 20, les rues sont désertes, vous traversez à la hâte par des gens mitouflés jusqu'aux yeux. Comment pourrions-nous trouver nos petites vieilles ? Alors, nous essayons de contacter des personnalités d'associations diverses, s'occupant de personnages, de personnes âgées. On nous reçoit assez froidement, c'est, semble-t-il, une impasse. Les Chinois n'aiment pas voir les étrangers se mêler d'un tel sujet, parce qu'ils ont honte de cet héritage et ne souhaitent pas s'exposer à d'éventuelles critiques. On tente, les amis des amis. Beaucoup nous dévoilent qu'une de leurs grand-mères a eu les pieds bandés, mais pas question de les rencontrer. Ils affirment qu'elles ne sauraient parler de ce sujet avec des étrangers. Eux-mêmes n'ont jamais osé aborder ce thème avec elles. Alors, on décide de traîner dans les vieux quartiers traditionnels de Pékin, ces hutongs en majorité habités par des personnes âgées. On aperçoit enfin une grand-mère qui a cette démarche très caractéristique des femmes aux pieds bandés, c'est-à-dire qu'elle marche comme un canard, s'appuyant sur ses talons, les pieds en éventail, histoire de tenir debout. Le plus étonnant, c'est qu'elles arrivent à marcher vite, courant même derrière une petite fille, leur petite fille, qu'elles accompagnent à l'école par exemple. Le talent de notre traductrice nous permettra, dit Catherine Monfajon, de nous retrouver finalement chez cette petite vieille. Un exploit, car pour ces vieilles personnes imprégnées de tant d'années de maoïsme, l'étranger reste quelque chose de tabou, tout contact ayant été interdit pendant si longtemps. Notre petite vieille vit dans une seule pièce où trône un frigo et une télé. Ici, on se lave dehors, même en hiver. Quand enfin nous osons aborder la question de ses pieds, après un éclair de surprise, elle en parle avec une facilité déconcertante. Comme toute personne âgée aimant parler du passé, elle semble même apprécier de pouvoir un peu s'épancher sur la question. À 72 ans, Élégance, puisque c'est son nom, porte tout, comme tous les vieux, la traditionnelle veste Mao. Tout est carré chez elle. Sa stature, son visage, ses cheveux raides, il est clair qu'elle a perdu depuis longtemps tout goût pour la coquetterie. Elle compare en riant ses deux petits pieds avec ceux de sa voisine, très vite venue nous rejoindre, trop curieuse de voir débarquer des étrangères dans le quartier. Cette dernière est du Sud et a eu, dit-elle, le bonheur d'échapper à cette coutume barbare. Mais notre petite vieille à nous, Élégance, a commencé à bander ses pieds à l'âge de 6 ans. « Parce que je trouvais cela très joli, dit-elle. J'ai beaucoup souffert en les bandant. Et ma mère me disait, « Ne pleure pas, si tu veux arrêter, tu arrêtes. » À cette époque-là, peu de femmes le faisaient encore. Mais mon père ne voulait pas que je continue. Je l'ai fait presque contre sa volonté. Je trouvais les pieds de ma mère trop jolis, même si c'était douloureux. Je ne pouvais pas poser l'avant de mes pieds et je ne peux toujours pas aujourd'hui. J'ai du mal à trouver des chaussures à ma taille, continue-t-elle. Alors je compense avec des semelles, nous explique-t-elle, alors qu'à notre grande surprise, elle retire ses chaussons et quantité de semelles pour nous dévoiler ses pieds, toutefois recouverts d'une paire de chaussettes. Parce que, vous pouvez l'imaginer, ses pieds sont horriblement déformés. Seuls le pouce et les deux premiers orteils sont à plat, les autres sont complètement recroquevillés sous la plante des pieds, où une grosse boule bizarre s'est développée. Élégance continue à nous expliquer comment ça s'est passé avec ses os et ses pieds. Les os de mes orteils sont tout cassés. Mes copines m'ont conseillé de les couper. Il paraît que ça devient moins douloureux, mais j'ai peur de le faire. Elle a cessé de bander ses pieds quand elle avait 20 ans, lorsque c'est devenu démodé. Puis elle ajoute, en chuchotant comme si elle ne devait surtout pas dire une telle chose. À ce moment-là, j'ai un peu regretté que ça devienne démodé. Élégance sera la seule parmi la dizaine de femmes que nous rencontrerons, dit Catherine Monfasion, à avoir désiré que ses pieds soient bandés. Mais faut-il pour autant ignorer ce qu'elle dit, sous prétexte qu'elle a toujours cru que les Chinoises, victimes d'une coutume imposée par les hommes pour le seul plaisir de ces derniers ? Selon l'historienne américaine Dorothy Coe, qui a étudié la vie des Chinoises au XVIe siècle, on ne peut écarter la complexité des motivations et des sentiments des femmes. Avoir les pieds bandés était l'événement le plus marquant de leur vie, de leur culture. En tant que femme, les bandés, c'était accomplir l'art suprême de la féminité pour l'époque. Et malgré tout le poids de l'attirance érotique des hommes vers les pieds bandés, écrit-elle, cette coutume n'aurait jamais pu durer plus de 1000 ans sans la détermination et la fierté des femmes à traverser cette épreuve. On sait bien que ce même sentiment se retrouve dans d'autres situations, par exemple l'excision. L'origine de cette coutume des pieds bandés remonte au Xe siècle. Partie d'une coquetterie de danseuses désirant avoir le pied de la taille d'une fleur de lotus, cette pratique a vite été imitée par les courtisanes et rejointe par les femmes des classes les plus riches. Avoir les pieds bandés est devenu un signe de distinction sociale et confiner les femmes de la famille au boudoir, c'était prouvé qu'on n'avait pas besoin qu'elles travaillent et les hommes appréciaient que leurs déplacements soient ainsi limités. La coutume a fini par toucher toutes les classes sociales, même les meilleurs paysans dont sont issues les femmes que nous avons rencontrées, dit Catherine Monfasion. Comme Zane, une drôle de coquette de 74 ans qui teint ses cheveux en noir ébène. Elle se souvient que toutes les femmes de la famille avaient les pieds bandés. Pour la plupart, c'était épouvantable qu'elle devait aller travailler au champ malgré tout. Je me souviens que ma mère ne pouvait travailler qu'à genoux, c'était bien trop douloureux pour elle. Zane a commencé à bander ses pieds, elle, en 1930. Elle avait 8 ans. Je ne voulais pas le faire et ma mère ne voulait pas me forcer, mais la famille est intervenue. Ils ont dit qu'il fallait bander mes pieds, sans cela je ne trouverais pas de mari. À l'époque, même si une fille était jolie, elle était méprisée si elle avait de grands pieds et personne n'en voulait. Mon père, qui était parti travailler à Pékin, est rentré en disant que les pieds bandés c'était terminé, ça ne se faisait plus. Mais le reste de la famille ne l'a pas cru et a insisté et convaincu ma mère de me forcer à le faire. Quand ma mère a commencé à bander mes pieds, dit Zane, je devais garder le bandage nuit et jour, mais ça devenait tellement insupportable la nuit que je les retirais. Alors ma mère m'a fabriqué une paire de chaussures que je ne pouvais plus ôter. J'ai hurlé, pleuré, mais elle n'a pas cédé et j'ai dû continuer. Au début, elle m'a aussi posé une grosse pierre sur la cambrure du pied pour casser les os plus rapidement. On utilisait des tissus de 3 à 10 mètres de long pour enfermer les pieds. On recroquevillait tous les orteils, sauf le pouce, sous la voûte plantaire afin que le pied soit parfaitement pointu. Le bandage, fermement cousu au début, conduisait les chairs à la putréfaction, ce qui empêchait le pied de grandir. Le pied était souvent en sang. On continuait ensuite de bander les pieds pendant toute sa vie pour maintenir la forme anormale. Au début, c'était l'enfer, car chaque jour, le bandage devenait de plus en plus serré, raconte Chun, qui a 78 ans, forcée elle aussi par sa mère à bander ses pieds. Mais une fois que les os des orteils étaient brisés, ça devenait un peu moins douloureux. Les plus petits pieds que verra Catherine Monfasion sont ceux de Chiu, qui est la plus âgée d'entre toutes les femmes qu'elle va rencontrer. Elle a 90 ans et ses pieds sont à peine plus longs que sa main. Les regarder est déjà une souffrance, tellement ils sont minuscules et déformés. En fait, ses pieds terriblement arqués sont devenus chevilles. Chiu a beaucoup plus de mal à marcher que les autres et s'appuie presque toujours sur une canne. Ma grande peur, ce sont mes arrière-petits-enfants. Il suffit qu'ils me bousculent pour que je perde l'équilibre. Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8.